France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
LPPR, loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Rappelez-vous, c'était avant le confinement. Manifestations, grèves, actions, démissions, tribunes, pétitions. Une très large mobilisation contre ce projet. Puis la crise sanitaire est arrivée, les universités ont fermé, tout s'est arrêté. Mais voilà que la LPPR revient au cœur de l'été. Le projet de loi est présenté en Conseil des ministres ce matin et l'on retrouve les oppositions exprimées l'hiver dernier. Pour le gouvernement, ce texte traduit un choix politique majeur, je cite l'exposé des motifs, celui d'investir dans l'avenir, mais aussi et surtout de replacer la science et la rationalité scientifique au cœur du pacte social et du développement économique du pays. Cela passe notamment par un effort budgétaire supplémentaire de 25 milliards d'euros pendant les 10 prochaines années, ce qui est, et je cite toujours, sans précédent depuis plusieurs décennies. Mais du côté des détracteurs du projet, cet effort budgétaire est en trompe-l'œil, loin d'être à la hauteur. De plus, la réforme va encore précariser les chercheurs et encourager une recherche compétitive et sélective. Il est donc question de moyens, mais aussi de vision. Et pour ne pas se contenter d'un résumé à gros traits, nous avons choisi ce matin de rendre compte de ce débat avec deux invités. Frédéric Vidal, bonjour.
Bonjour.
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et Samuel Ayat, bonjour à vous.
Bonjour.
Politiste, chercheur au CNRS. Vous appartenez au comité de mobilisation élu par la Coordination nationale des facs et labos en lutte. Et c'est à ce titre que vous êtes là ce matin. Merci à tous les deux d'avoir accepté de dialoguer. D'abord, Frédéric Vidal, avec la crise sanitaire, de nombreuses réformes contestées ont été reportées, suspendues, parfois en partie enterrées, rouvertes à la discussion. Pourquoi cette LPPR est-elle présentée en plein mois de juillet ?
Alors tout d'abord parce que c'est absolument nécessaire de réinvestir massivement dans la recherche. C'est une loi qui est préparée depuis maintenant 18 mois avec trois groupes de travail dans lesquels étaient présents des parlementaires, plus de 1000 contributions. Je me suis moi-même déplacée des dizaines de fois au contact dans les laboratoires, voir les chercheurs. Et ça paraissait essentiel que l'on puisse enclencher le plus vite possible cette possibilité de refinancer profondément la recherche, parce qu'on l'a vu dans cette crise, mais on le voit en réalité en permanence, c'est la recherche qui prépare l'avenir. Et c'est la recherche académique qui se fait aujourd'hui dans les laboratoires qui permet, en temps de crise, de trouver dans la connaissance qui a été produite des débuts de solutions, tout au moins. Donc voilà, c'était important de le faire et c'était extrêmement attendu aussi, parce que vous parlez des oppositions, moi je parle de tous les gens qui en permanence me disent qu'il est urgent de réinvestir dans la recherche en France.
Il est urgent de réinvestir dans la recherche en France. On imagine effectivement que là-dessus, tout le monde est d'accord. Alors justement, cet effort budgétaire, c'est 25 milliards d'euros sur 10 ans, sans précédent, dites-vous Frédéric Vidal. Insuffisant pour vous et pour ceux que vous représentez ici, Samuel Ayat ?
Bah, tout d'abord, il y a quand même, je vais revenir dessus une seconde, cette question de la méthode qui est problématique et qui crée quand même une grande déception dans la communauté universitaire. Il y a quelque chose d'assez paradoxal à dire que il s'agit d'un choix politique majeur, qu'il s'agit d'une loi majeure et importante, et de la faire passer de cette manière-là, alors que elle fait l'objet d'une très vive contestation.
De cette manière-là, c'est-à-dire
C'est-à-dire pendant l'été, c'est-à-dire à un moment en plus où non seulement les facs sont fermés, mais où les enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, le personnel administratif est en train de préparer une rentrée qui va être très compliquée. Et donc on se retrouve sans possibilité de débattre avec un texte qu'on demande d'avoir depuis des mois et puis qui nous est donné quelques jours à peine avant sa présentation aux instances. Voilà, il y a une forte déception. Une déception qui est exprimé par toute une série d'instances de représentation, que ce soit le Comité national de la recherche scientifique, que ce soit l'Assemblée des directeurs et des directrices de laboratoires, que ce soit les sociétés savantes, etc. Et donc dans cette perspective, voilà, il y a forcément quelque chose qui ne convient pas. Et effectivement, quand on regarde le résultat, quand on regarde le détail, quand on voit ces fameux 25 milliards qui nous étaient proposés, qui correspondent à un vrai besoin, hein, parce que aujourd'hui, on est effectivement, et je sais que Madame la Ministre l'a dit et répété, on a un besoin de refinancement où il n'y a jamais, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu une part du PIB consacrée à la recherche aussi basse en France, donc il y a un besoin de refinancement. Sauf que quand on regarde cette proposition de 25 milliards sur 10 ans, en fait, c'est effectivement, comme vous le disiez, quelque chose qui est un peu en trompe-l'œil. Parce que en 2021, par exemple, la prochaine année, ce qui est proposé sur ces 25 milliards, ben c'est 300 millions, et encore en comptant de manière très généreuse. C'est-à-dire que comment croire un gouvernement qui nous dit « je vais vous donner 25 milliards, mais 99% de cette somme, eh bien vous ne l'aurez que après 2022, vous ne l'aurez qu'après les prochaines élections », en sachant qu'évidemment cette programmation n'engage absolument à rien. Donc nous, ce qu'on demande, c'est pas 25 milliards dans 10 ans, ce qu'on demande, c'est un refinancement immédiat, tout de suite. De ce point de vue-là, le gouvernement ne fait pas cet effort-là.
Frédéric Vidal, d'abord, donc vous disiez non sur les 300 millions pour l'année prochaine.
Oui, bien sûr, je dis non parce que, une fois de plus, je crois que il y a un besoin d'explication de la façon dont se construit un budget, mais peu importe, c'est bien 400 millions d'euros qui seront exclusivement consacrés à la recherche et à la revalorisation de l'ensemble des personnels de la recherche. C'est plus de 1000 euros supplémentaires par an pour les chargés de recherche ou les maîtres de conférences, et ce sera 6 000 euros de plus par an au minimum à l'horizon 2027. C'est des primes des personnels de catégorie C, des ITA de catégorie C, qui vont monter et dépasser les 1 000 euros par an. C'est ça aussi la loi de programmation de la recherche, et c'était important qu'on puisse le faire dès 2021. Ensuite, monsieur indique qu'un certain nombre d'instances se sont prononcées contre. Moi, je tiens à dire que l'instance qui s'appelle le CNESER et qui est l'instance représentative de l'ensemble des parties prenantes de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est prononcée pour à 55%. Alors, je pense que c'est important aussi de tenir compte de cette représentation. On travaille avec les représentants des personnels depuis des mois. On est en train de préparer tout ce qui va concerner l'augmentation des salaires, l'augmentation des indemnités, la façon dont on reconnaît mieux l'ensemble des missions dans l'enseignement supérieur, le fait que les gens vont pouvoir maintenant prendre de véritables années sabbatiques avec le doublement des délégations. Enfin, c'est un travail de fond, c'est un travail qui est nécessaire et c'est un travail qui a été travaillé pendant 15 mois avec l'ensemble de la communauté, et je pense que c'est important qu'on le rappelle.
Alors Frédéric Vidal, parmi les instances qui se sont prononcées sur ce projet de loi, il y a aussi le Conseil économique, social et environnemental récemment, qui estime lui-même sur cette question des moyens que ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Quand on parle par ailleurs d'un plan de relance à 100 milliards d'euros, on aurait pu imaginer que le quoi qu'il en coûte s'applique aussi à la recherche, non ?
Et ne vous inquiétez pas, il y aura une part recherche dans le plan de relance, mais la recherche, elle a besoin de temps long. Elle a besoin de savoir qu'elle va être financée à minima sur les 10 prochaines années. Quand on fait de la recherche, on a besoin de savoir, lorsqu'on lance notre recherche, qu'elle va pouvoir être financée de façon pluriannuelle. Le plan de relance, c'est quelque chose qui va nous permettre de répondre à cette crise. C'est concentré dans le temps, hein. C'est 600 jours, c'est 2 ans pour relancer notre pays. La recherche a besoin de temps. La recherche a besoin de visibilité.
Donc il y aura des moyens supplémentaires
du temps,
dans le plan de relance,
des moyens,
en plus de cette
de la visibilité. C'est la loi de programmation de la recherche. Mais bien sûr, il y aura des moyens prévus dans le plan de relance pour soutenir la recherche, bien sûr.
Alors au-delà de cette question globale des moyens, il y a plusieurs points donc dans ce projet de loi qui relèvent, je le disais, de la vision de ce qu'est ou doit être la recherche en France, avec donc une augmentation de la part des financements sur projet. Samuel Ayat, pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie et en quoi c'est un problème pour vous ?
Alors, comme vient de le dire Madame la Ministre, la recherche a besoin de temps long. C'est-à-dire que les chercheurs et les chercheuses ont besoin bien à la fois d'avoir cette visibilité sur le long terme, cette indépendance. Et ça passe par le fait d'avoir des crédits qui sont garantis, qui vous permettent de voir sur plusieurs années ce que vous allez faire. Or, la logique actuelle, qui est celle de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, mais plus généralement d'une transformation qui a commencé depuis une vingtaine d'années dans la recherche publique, c'est de concentrer l'essentiel des moyens sur des appels d'offres, sur des appels à projets, sur ce qu'on appelle donc la recherche par projet. Or, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire franchement. Il me semble que c'est très compliqué. J'ai du mal à comprendre comment, après la crise que l'on vient de vivre, que l'on est encore en train de vivre, on peut défendre la recherche par projet. Parce que c'est à cause de cette recherche par projet que la France a pris 10, 15 ans de retard sur la recherche sur les coronavirus. C'est ce qu'expliquent notamment des virologues qui travaillent sur les... les membres d'un laboratoire de recherche, Étienne de Crolly et Bruno Canard notamment, qui sont virologues, et qui expliquent ce qui s'est passé, qui sont des spécialistes des coronavirus. C'est qu'expliquent qu'au milieu des années 2000, il y avait une recherche de pointe qui se faisait sur les coronavirus, qui avait été à ce moment-là largement financée parce que ça correspondait j'allais dire une mode, mais c'est pas une mode, c'est un besoin, il y avait une urgence, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque ce sujet n'a plus été au cœur des préoccupations, eh bien leur financement a été coupé. Ils ont été coupés parce que, simplement, ils n'ont pas réussi à obtenir ces appels d'offres qu'ils avaient eus dans le passé. Et le résultat de ça, c'est qu'ils ont été obligés d'arrêter leur recherche sur les coronavirus. Et donc, cet exemple, qui est frappant, qui est un peu tragique, montre un des problèmes fondamentaux de la recherche par projet. C'est une recherche de court terme. C'est ce que dit Bruno Canard, donc le virologue en question. La science ne marche pas dans l'urgence et dans la réponse immédiate. Il faut du temps long, et ce temps long-là, il demande des crédits pérenne. Or, c'est exactement dans le sens inverse que va non seulement la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, mais plus généralement la focalisation sur la recherche par projet.
Frédéric Vidal, là-dessus, sur la recherche par projet, est-ce que effectivement le risque, ça n'est pas d'encourager une recherche qui se concentrerait effectivement sur les sujets, les objets du moment, qui ne seront pas forcément ceux de demain, après-demain, dans 10 ans?
Mais c'est pas du tout comme ça que fonctionne la recherche. Si on parle du laboratoire dans lequel est ce chercheur que monsieur vient de citer, c'est un laboratoire qui est financé tous les ans de manière récurrente, qui ne travaille pas que sur le coronavirus d'ailleurs, qui travaille sur des mécanismes qui effectivement permettent de mieux comprendre le coronavirus. Mais j'étais à Lille dans un laboratoire dont le thème de recherche, ce sont les coronavirus. Ce laboratoire est financé depuis des années. Monsieur Canard a obtenu plusieurs financements sur projet.
Pour sortir peut-être de cet exemple particulier sur la philosophie, quoi.
Il faut qu'on sorte de cet exemple parce que c'est toujours celui qu'on me donne. Et donc, effectivement, maintenant, je connais par cœur les financements qu'a eu ce laboratoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'avoir de la souplesse. La souplesse, c'est deux choses. C'est bien sûr des financements récurrents. Et d'ailleurs, il y en a qui sont prévus dans la loi de programmation de la recherche. Actuellement, les organismes de recherche fonctionnent avec des contrats d'objectifs et de performance, sans qu'on leur garantisse les moyens pour atteindre leur objectif. Ça changera dans la loi. Ce sera des contrats d'objectifs et de moyens. Ça veut dire que sur 5 ans, on aura une visibilité pour financer la recherche de base. Ensuite, on va faire monter la capacité de financement de l'ANR à 1 milliard. 1 milliard sur un financement...
L'Agence nationale de la recherche.
1 milliard sur un financement global de la recherche qui est de 20 milliards par an à l'issue de la loi. L'ANR sera à 1 milliard à l'issue de la loi. Le financement de la recherche sera à 20 milliards. On parle de 5%. On ne peut pas me dire que toute la recherche en France va être financée sur projet. Il suffit qu'on regarde les chiffres. Donc, à quoi sert l'Agence nationale de la recherche? Elle sert à financer des projets blancs, ce qu'on appelle blancs, c'est-à-dire des gens qui ont simplement envie d'essayer des choses et qui ne trouvent pas dans leur financement de base la capacité de le financer. Et ça, évidemment, c'est important et il faut le concerner. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que ce que l'on pouvait reprocher à l'ANR, ce que je lui reprochais en tout cas, c'est que l'ANR ne finançait que des équipes au sein des laboratoires. Et ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est que en plus de ce qui sera donné aux équipes, il y aura un financement supplémentaire donné aux laboratoires pour qu'ils mènent sa politique de laboratoire. Et ça n'a jamais été fait. Et ça, c'est du collectif. Et parce que quand quelqu'un gagne une ANR dans un labo, c'est tout le labo qui a participé à cette réussite. C'est normal que tout le labo bénéficie de cette réussite.
Et vous entendez Frédéric Vidal, ces critiques sur l'université, le monde de la recherche qui deviendrait un lieu de compétition. Le président du CNRS avait défendu en décembre une loi inégalitaire, darwinienne, qui encourage les plus performants. C'est cela la philosophie de votre projet?
Mais c'est-à-dire que je voudrais qu'on m'explique, dans le monde de la recherche, la part de coopération et la part de compétition, ce sont deux parts égales. Ne me dites pas que les chercheurs n'ont pas pour objectif d'être les premiers à avoir une idée, un concept, d'être les premiers à apporter à la connaissance de la communauté scientifique une nouvelle découverte. C'est de la compétition, appelons les choses par leur nom. Et en même temps, la recherche, c'est aussi beaucoup de collaboratif, beaucoup de coopération. Et c'est pour ça que dans cette loi recherche, je n'ai pas voulu reconnaître uniquement le travail des chercheurs et des enseignants-chercheurs, mais aussi de l'ensemble des personnels de la recherche. Et ça aussi, c'est inédit.
Samuel Hayat, voilà, sur cet aspect des choses, sur cette loi qui encouragerait la compétition, la sélection. Vous souriez pendant que Frédéric Vidal parlait.
Mais... Non, mais c'est le problème, c'est évidemment pas la question de la compétition, de la coopération. C'est cette espèce... À un certain moment, on a l'impression que c'est vraiment tout simplement de l'idéologie. C'est-à-dire, non, l'idéologie selon laquelle la compétition, elle serait bonne, il faudrait la favoriser parce que ça permettrait de faire émerger les meilleurs sur lesquels on concentrerait tous les moyens. Mais c'est toujours la même logique. C'est tout simplement de faire plus avec moins, et donc comme on a moins de moyens, on va essayer de trouver des moyens un peu artificiels de faire émerger les plus compétitifs et puis de leur donner de l'argent. Mais c'est pas du tout ça la logique de la recherche. Évidemment qu'il y a de l'émulation, mais ce n'est pas une compétition pour les moyens, c'est une compétition pour la production des résultats. On est dans quelque chose de tout à fait différent. Et aujourd'hui, il faut bien voir que cette compétition-là, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret pour beaucoup de personnes, et notamment pour la très grande le très grand nombre de personnes qui n'ont pas de poste permanent. Cette idéologie de la compétition permanente, eh bien, met toutes ces personnes qu'on appelle les précaires, tous ces docteurs sans poste, tous ces doctorants et ces doctorantes, dans une situation catastrophique de recherche permanente, de contrats, de compétition permanente pour des postes. Donc, si vous voulez, c'est une idéologie qui est quand même très dangereuse, qui a des effets concrets qui sont très dangereux.
Alors, justement, sur les précaires,
si vous me permettez, l'objectif de la loi est... Alors vraiment, j'aurais pu tenir les mêmes propos avant que nous investissions comme nous allons le faire de façon massive. Mais l'objectif de la loi, c'est plus aucun doctorant sans rémunération. Et ça, c'est aussi totalement inédit.
Et alors justement, là-dessus, dans le projet de loi, il y a aussi effectivement, parmi les points qui sont en débat, les statuts, le recrutement, avec l'instauration de voies parallèles de recrutement. On parle de recrutement conditionnel, de CDI de mission scientifique. Frédéric Vidal, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et pourquoi pas des postes pérennes ?
Alors, il y a évidemment des postes pérennes qui sont prévus dans la loi, et il y a évidemment le maintien.
Mais c'est une petite part de l'ensemble, en fait.
Ah non, pas du tout, c'est pas une petite part. Plus 5200 emplois sous plafond État, c'est pas une petite part. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, où on a perdu 3000 emplois dans le monde de la recherche. Donc, on peut pas complètement considérer que c'est énorme de perdre 3000 emplois, et que c'est une petite part d'en avoir 5200 supplémentaires. Je suis partie du constat sur le terrain. On a aujourd'hui des jeunes qui débutent leur carrière, qui partent à l'étranger pour débuter ces carrières. On a des jeunes qui ne terminent même plus leur doctorat et sont recrutés avant la fin des doctorats. On a des disciplines rares en France sur lesquelles il est extrêmement compliqué de faire des recrutements sur la base des critères traditionnels, du nombre d'étudiants encadrés, etc. Nous avons besoin de créer une nouvelle voie d'accès au poste de professeur d'université et de directeur de recherche. Cette nouvelle voie d'accès, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet par un seul concours et après une période probatoire, parce que c'est une marque de confiance que l'on donne, d'être titularisé dans le corps des professeurs ou des directeurs de recherche directement, que l'on ait démarré sa carrière à l'étranger, que l'on ait eu un début de carrière en dehors du monde académique, que l'on soit une femme, parce que pour les femmes, c'est facile de passer le premier concours. On est dans une dynamique. Passer un deuxième concours pour devenir professeur ou directeur de recherche, c'est beaucoup plus compliqué. C'est tout ça que j'ai entendu. Et donc, c'est une nouvelle façon d'accéder à des emplois stables, à des emplois de titulaires, à des emplois de professeurs et de directeurs de recherche. Et pour qu'il n'y ait pas de difficultés avec les gens qui sont actuellement en poste, parce qu'évidemment, j'y suis aussi très sensible, il y a une mesure qui permet, pour chaque voie accélérée, de permettre aussi une promotion d'un chargé de recherche ou d'un maître de conférence, dont les promotions ont été bloquées ces dernières années pour des raisons budgétaires, pour des raisons de crédit. Et ce ne sera plus le cas avec cette loi de programmation de la recherche. C'est 25 milliards d'euros mis à disposition du monde de la recherche.
Samuel Hayat.
Non, bah, là, je pense qu'on tombe sur le problème principal. Il n'y a pas assez de postes. Il y a un manque de postes pérennes. Il y a un manque de fonctionnaires. Ce n'est pas en créant une nouvelle voie d'accès qu'on va résoudre ce problème-là. C'est en créant des postes. Or, aujourd'hui, sur 20 ans, on a une augmentation drastique du nombre d'étudiants et d'étudiantes. Hein. Ces 10 dernières années, on a eu 400 000 étudiants et étudiantes de plus sur un total de 2 milliards 7 millions. Avec tout ça à moyen constant, sans créer des postes. Et comment, du coup, on fait? Et bien, tout simplement en s'appuyant toujours sur les plus précaires, en s'appuyant sur des docteurs sans poste. Aujourd'hui, il y a 50 000 enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses. Il y a 130 000 vacataires. Des personnes qui sont payées en dessous du SMIC, parfois 6 mois plus tard. Alors, ça recouvre toute une série de situations. Mais on est dans une situation qui est très problématique, face à laquelle il faut des postes. Il faut des postes pérennes. Il faut des postes de fonctionnaires. Et ça, il n'y en a pas la trace dans la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et c'est le problème principal auquel on fait aujourd'hui face.
Je suis désolée que vous n'ayez pas lu, parce que vraiment, c'est écrit noir sur blanc.
La rentrée universitaire, on va en parler après le journal de 8 heures. Beaucoup de choses à dire aussi là-dessus, à demander en tout cas. Merci Samuel Ayad, politiste, chercheur au CNRS, membre du comité de mobilisation élu par la Coordination nationale des facs et labos en lutte. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Il est 8h20 et nous retrouvons Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en ce jour de présentation du projet de loi de programmation pluriannuelle de la Recherche. Nous en avons parlé avant 8h en débat avec le politiste Samuel Ayad, membre du comité de mobilisation élu par la Coordination nationale des facs et labos en lutte. Samuel Ayad qui est resté avec nous. Ce projet de loi qui arrive alors que l'université s'apprête à vivre une rentrée exceptionnelle, plus encore d'étudiants que les années précédentes, en raison de la démographie, mais aussi d'un taux de réussite inédit au bac et de la situation économique et sociale qui pourrait conduire un certain nombre d'étudiants à prolonger leur formation faute de pouvoir trouver du travail. Frédéric Vidal, combien d'inscrits à Parcoursup sont aujourd'hui sans proposition, sans solution pour la rentrée?
Alors nous avons fait le point vendredi dernier au moment de la fermeture de la plateforme. Il y avait à peu près sur la plateforme 50 000 jeunes que nous avons tous appelés pour vérifier quels étaient leurs projets. Et il y en a aujourd'hui 9 500 qui ont confirmé leur souhait d'accéder à l'enseignement supérieur. Donc nous sommes en train de les accompagner et nous avons obtenu les financements pour avoir 10 000 places supplémentaires pour la rentrée prochaine, dans des filières qui sont extrêmement demandées par ces jeunes. Et on voit à quel point, là aussi, ils ont été touchés par cette crise, puisqu'ils sont très très nombreux à vouloir rejoindre des filières paramédicales. Et donc nous travaillons avec les régions, qui sont en charge du financement des écoles d'infirmiers et d'infirmières, pour pouvoir, par exemple, augmenter de 2000 places dans ces écoles.
Vous maintenez ce que vous aviez dit justement il y a quelques jours, personne sans solution à la rentrée?
Non, personne sans solution à la rentrée. Ça fait 3 ans que nous y travaillons, avec vraiment une implication incroyable, et je tiens vraiment à les remercier, à la fois des professeurs du secondaire et des enseignants-chercheurs du supérieur, de tous les conseillers d'orientation, des rectorats qui mettent en place des comités d'accès à l'enseignement supérieur et qui traitent un par un, très humainement, l'ensemble des dossiers de ces jeunes.
Alors, Frédéric Vidal, vous l'avez dit, donc vous avez annoncé hier la création de la rentrée de 10 000 places supplémentaires dans les filières les plus demandées. Néanmoins, l'augmentation du nombre de bacheliers qui vont arriver à la fac est bien supérieure à 10 000. Les présidents d'université s'inquiètent, en tout cas pour plusieurs d'entre eux, de la capacité qu'ils auront à absorber ces nouveaux étudiants. Il y a une question très simple qui est connue depuis des années, c'est la question des locaux. Comment on va faire? Où est-ce qu'on va les mettre, ces étudiants supplémentaires?
Alors d'abord, il faut bien comprendre que la façon dont la plateforme fonctionne fait que l'ensemble des lycéens étaient inscrits sur la plateforme. Donc l'objectif, c'est que, bien avant les résultats du baccalauréat, on cherche à trouver des solutions pour l'ensemble des jeunes qui sont inscrits en terminale. Donc on n'a pas découvert massivement, tout d'un coup, ces jeunes. Ils étaient inscrits sur la plateforme, ils avaient déjà fait leurs vœux. On avait déjà commencé à travailler avec eux sur leur projet.
Ce qui n'était évident, peut-être pas anticipé, en revanche, c'est ces étudiants qui vont prolonger leurs études. Parce
c'est pour ça, au-delà des places supplémentaires qui sont ouvertes chaque année dans les établissements, et ça fait l'objet du plan étudiant, il ne faut pas oublier que c'est 1 milliard d'euros qui ont été consacrés justement à l'accueil en premier cycle, avec des créations de postes d'enseignants-chercheurs, notamment pour accueillir ces populations supplémentaires d'étudiants. Il faut vraiment que tout le monde participe. Et c'est pour ça que nous avons mobilisé à la fois les lycées professionnels qui peuvent offrir des formations complémentaires, des places en BTS. Jean-Michel Blanquer a permis l'ouverture de 3000 places supplémentaires, des places dans tous les établissements d'enseignement supérieur susceptibles d'accueillir ces jeunes. Je crois que ce printemps a été terrible pour notre jeunesse, peut-être beaucoup plus que ce que l'on imagine aujourd'hui, et qu'on en verra probablement les traces très longtemps. Tous ces jeunes doivent savoir que l'immense majorité des personnels dans les établissements sont conscients de ce qu'ils ont vécu et seront là pour les accueillir à la rentrée.
Alors, nous parlions des locaux, manque de place. À l'heure où nous parlons, Frédéric Vidal, on sait que ça peut changer, évidemment. Mais qu'est-ce qui est envisagé pour la rentrée universitaire? Les universités vont-elles rouvrir à la rentrée? Si oui, vont-elles rouvrir à tous les étudiants?
Alors moi, je suis très attachée à l'enseignement en présentiel. Je pense que le numérique peut apporter énormément de choses, notamment dans la façon dont on enseigne. Mais dans l'enseignement, il y a vraiment une part d'interaction. C'est évidemment pour ça que nous avons travaillé avec les établissements pour essayer de mettre en place des mesures qui, évidemment, protègent les étudiants et les personnels du virus, mais permettent aussi qu'il y ait du présentiel. Donc pour le moment, nous en sommes aux règles suivantes. Distanciation sociale. Si la distanciation n'est pas possible, port du masque. Et puis, néanmoins, nous avons investi une trentaine de millions d'euros pour préparer aussi des cours à distance pour la rentrée. Parce que moi, je suis très inquiète du sort des étudiants internationaux. Qui vont peut-être avoir du mal à rejoindre nos établissements d'enseignement supérieur. Et donc, en fait, je travaille en permanence avec les conférences des établissements pour mettre en place des mesures qui permettent néanmoins l'accueil en présentiel, même si on ne peut pas garantir que ce sera 100% du présentiel.
Frédéric Vidal, comment on fait de la distanciation physique avec des universités où il y aura encore plus de monde et dans des locaux, encore une fois, qui sont déjà trop exigus?
Alors, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. D'abord, j'imagine que vous faites référence à ces images que l'on voit quasi systématiquement d'un amphithéâtre bondé à la rentrée. Évidemment, il y a des filières où c'est le cas, il y a des filières où ça n'est pas le cas. Moi, je ne veux pas imposer des règles extrêmement strictes, alors qu'il y a des filières d'enseignement où on peut tout à fait espacer suffisamment les étudiants pour que les cours se passent bien. C'est pour ça que j'ai une confiance absolue, hein, de toutes les façons, dans mes collègues et dans les établissements, et je sais bien qu'ils vont faire au mieux. Et moi, je suis là pour essayer de faciliter les choses et de les accompagner. Lorsqu'il y a ces amphibondés que l'on voit, eh bien oui, et c'est bien pour ça qu'il y aura des financements supplémentaires, il faudra probablement, alors certainement, avoir un masque et probablement dédoubler les amphis de rentrée. Je ne vois pas comment est-ce que l'on peut avoir des amphis qui soient bondés d'étudiants, parce qu'il y a le moment où ils seront dans l'amphi, mais il y a le moment où ils vont arriver dans les amphis, etc. Donc voilà, je crois que ce que les établissements ont prévu, mais là encore c'est très variable, selon les établissements, selon les disciplines, c'est des rentrées qui vont être plus étalées. Et c'est pour ça aussi qu'il y aura des moyens financiers supplémentaires pour accompagner cette rentrée qui seront versés aux établissements.
Samuel Ayad, peut-être un mot là-dessus. Je rappelle donc que vous étiez avec nous aussi avant 8h, chercheur CNRS et membre du comité de mobilisation élu par la Coordination nationale des facs et labos en lutte,
oui,
sur cette rentrée.
Je dois dire que je suis quand même très étonné qu'il puisse y avoir des annonces d'ouverture de 10 000 places supplémentaires sans annonce de postes supplémentaires pour la rentrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va, encore une fois, comme c'est le cas depuis des années, nous demander de faire plus avec moins. Aujourd'hui, la dépense par étudiant a baissé de 10% ces 10 dernières années. On est dans une situation qui est catastrophique. Catastrophique pour les enseignants, les enseignantes, pour le personnel administratif, mais surtout pour les étudiants et les étudiantes. Il faut voir qu'aujourd'hui, 40% des étudiants et des étudiantes travaillent, que 20% vivent dans des situations de pauvreté. Madame la ministre parlait de son intérêt pour les étudiants internationaux. Ces étudiants internationaux ont vu leurs frais d'inscription multipliés par 16 par ce gouvernement. Donc on est dans une situation qui est catastrophique. Et face à ça, alors que on a un afflux sans précédent d'étudiants, pas juste la rentrée prochaine, mais toutes les rentrées à venir, on se retrouve avec des annonces d'ouverture de places sans création de postes. Ça n'est pas sérieux et c'est franchement quelque chose qui, vu par la communauté universitaire, est quelque chose d'extrêmement problématique et un véritable gâchis.
Là encore, c'est totalement faux.
Rapidement.
Il y a évidemment besoin de financer la rentrée. Je ne sais pas recruter des enseignants-chercheurs en 2 mois. Si monsieur le sait, il faut qu'il m'explique. Et comme ce sont des postes qui sont budgétés sur les années, bien sûr, ces financements resteront aux établissements, comme c'est le cas pour les 350 millions d'euros qui ont été rajoutés pour enfin prendre en compte la démographie étudiante. C'est le premier gouvernement qui le fait.
Frédéric Vidal, je voudrais, pour terminer, vous en avez parlé rapidement, mais il y a eu effectivement une mobilisation exceptionnelle pendant le confinement des enseignants pour développer les cours à distance. Certains d'entre eux redoutent que ces pratiques développées parce qu'il n'y avait pas le choix restent et que le distanciel soit petit à petit encouragé justement parce que on manque de place. Est-ce que vous nous avez dit que vous étiez très attaché au présentiel, vous pouvez apporter des garanties là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'est pas question à terme de généraliser les cours à distance?
Je vais vous répondre très simplement. Les gens qui pensent que faire des cours en distanciel, ça prend moins de temps, c'est vraiment qu'ils n'en ont jamais fait. Moi, j'en ai fait, je peux vous garantir que ça prend énormément de temps. Et donc, j'ai entendu aussi cette caricature disant qu'on allait enseigner à distance et donc supprimer des emplois. Mais dans ce cas-là, depuis que les bibliothèques existent, on n'a plus besoin de profs. Et ça, évidemment, c'est pas vrai. Donc voilà, je crois qu'il faut arrêter la caricature.
Donc il n'est pas question de faire perdurer ça, de faire de l'hybride sur le long terme, y compris quand on ne sera plus en
espérance. Mais si votre pratique pédagogique vous amène à utiliser des outils numériques, faites-le. Mais évidemment, l'enseignement, c'est avant tout du face-à-face.
Et ça, donc, il n'est pas question que...
Je ne sais pas comment vous le dire autrement.
Non, mais très bien, voilà. C'est entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et merci à vous, Samuel Ayad, politiste, chercheur au CNRS, membre du comité de mobilisation élu par la Coordination nationale des facs et labos en lutte. Vous étiez là, donc, à 7h40 pour débattre de ce projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. En présentation, en conseil des ministres ce matin, en débat à la rentrée, Frédéric Vidal au Parlement?
Oui, à la rentrée, à l'Assemblée nationale d'abord, puis au Sénat.
Merci beaucoup, il est 8h31.